Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Chrysoline de Gastine, la fondatrice de la marque Balzac Paris. Balzac, c'est parti d'un pari lancé entre copains pour devenir aujourd'hui une marque emblématique de la mode française et du prêt-à-porter 2.0. Comment Chrysoline et Charles, son associé et beau-frère, ont-ils réussi à transformer un pari d'amis en une réelle entreprise innovante et durable? Quels ont été les obstacles rencontrés et comment Chrysoline a su les surmonter? C'est ce dont on va parler dans cet épisode. On parle également de l'importance de savoir placer son énergie et de s'entourer des bonnes personnes pour avancer encore plus loin. Pour ceux que ça intéresse, j'ai également réalisé un court reportage bonus sur Balzac Paris, les coulisses de leur marque, leur croquis et leur univers, disponible sur ma chaîne YouTube My Better Self. Je remercie aujourd'hui Little Player qui a laissé le commentaire suivant sur l'application Apple Podcasts. Chaque mardi, j'attends impatiemment le nouveau podcast de cette chaîne et je ne suis jamais déçue. Chaque épisode est une bouffée de fraîcheur, le petit bijou de ma journée. Des invités avec des personnalités singulières et des histoires passionnantes auxquelles chacun peut s'identifier. Ton message me touche énormément et merci vraiment d'avoir pris le temps de laisser ton avis sur InPower. Et je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Bonjour Chrysoline et bonjour, bienvenue Louise. Sur InPower, je suis ravie de te recevoir chez toi aujourd'hui.
Ouais, c'est chouette, bienvenue chez moi du coup.
Voilà, ma première question, je me suis demandé, est-ce que tu t'imaginais créatrice de mode quand tu étais enfant?
Pas du tout, je sais pas, on m'a déjà posé cette question, ce à quoi j'avais répondu que je voulais être pédiatre enfant. Et je suis pas du tout pédiatre actuellement et je pense que j'aurais pas pu l'être. Donc, non, pas du tout. C'est vraiment venu au fil des ans, au fil de l'aventure Balzac qui a commencé aussi en parallèle de mon métier de l'époque. Donc finalement, tout s'est fait très doucement et donc il n'y avait pas d'histoire prédéfinie ou en tout cas prédessinée.
Ouais, tu t'es vraiment laissée aller par le cours.
Exactement.
De la vie, quoi.
Ouais, ouais.
Et je crois que vous avez commencé en vendant des nœuds papillons.
Exactement.
Surtout, donc exclusivement des nœuds papillons.
Ouais.
Est-ce que c'était vraiment... toi, dès le début, tu pensais que tu devais n'y faire que ça? Pourquoi vous avez choisi ce créneau-là en particulier?
Alors, en fait, on a lancé Balzac avec Charles et Victorien, donc avec cette idée de faire de Balzac une marque de nœuds papillons. Made in France, sur mesure, c'est super important. Parce qu'en fait, c'était le retour de nœuds papillons dans les vestiaires masculins et un petit peu féminins. Et donc, j'ai dit à Vic et Charles, l'offre est hyper désuée. En boutique, on trouve ce fameux nœud papillon noir en satin qui, bien souvent, est déjà prénoué. Mais finalement, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une offre hyper sympa sur le sujet.
Ouais.
Donc, travaillons avec Clémentine, qui est ma sœur, qui est capable de nous dessiner un patron, de nous faire quelque chose qui soit vraiment dessiné pour Balzac Paris. Et en fonction, on voit si ça prend. Au pire, ça prend pas. Et donc, on a lancé un blog... donc en 2011 et en fait rapidement ça a pris puisque le papillon revenait vraiment sur le devant de la scène, notamment dans les mariages. Les mariés aimaient bien que les hommes aient un nœud pape, les témoins également, donc on faisait en fonction du cortège de la mariée et on avait déjà, si tu veux, commencé ce shopping très exclusif et surtout au plus proche de la cliente puisque les clients venaient dans nos appartements parisiens nous montrer les tissus qu'elles avaient choisis. Nous, en parallèle, on leur montrait les possibilités qu'on pouvait offrir avec l'idée d'un nœud papillon réversible. Donc, il y avait déjà, en tout cas dans nos têtes, l'idée de consommer la mode autrement.
Ouais.
Et on a commencé par le nœud pape.
D'accord. Et est-ce que quand tu as commencé, tu t'es... Enfin, parce que le début d'une marque ou même de n'importe quelle entreprise, c'est toujours un peu flou, c'est toujours un peu mystérieux. On ne sait pas trop par quoi commencer ou ce que ça va donner. J'ai l'impression que vous, ça a été assez fluide. Est-ce que vous avez été entouré? Est-ce que c'est le fait d'avoir été plusieurs? Est-ce que c'est parce que vous avez fait, en fait, step by step?
Je pense que la clé, en tout cas pour nous trois, ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on a fait ça à côté de nos boulots respectifs. Donc au début, si tu veux, on faisait ça comme un... pas un passe-temps, mais parce que ça nous prenait au fur et à mesure de plus en plus de temps. On y consacrait beaucoup de temps le week-end et le soir en rentrant du travail. Mais c'était super stimulant de voir qu'un petit projet qui naît comme ça, dans un coin de notre tête, un dimanche soir, peut prendre une ampleur un peu sympa, avoir des parutions presse rapidement. Si tu veux, l'engouement était tel que nous, on a été très motivés rapidement pour se donner à fond dans le projet. Et donc, en 2014, se lancer à plein temps aussi dans l'aventure Balzac avec Charles notamment. Et la chance qu'on a eue également, c'est de négocier une rupture conventionnelle avec nos boîtes, de l'époque. Et donc forcément, ça te laisse une liberté d'esprit au moment de te lancer qui est telle que tu te dis, bon, je mets entre parenthèses ce qui concerne le financier, en tout cas pour ma pomme, pendant 2 ans, puisque j'ai la chance de toucher le chômage.
Ouais.
Et j'en avais moi discuté avec Victor, parce qu'on était mariés à l'époque. Et il m'avait dit, lance-toi, on fera en sorte que mon métier actuel puisse couvrir le chômage que tu as en moins par rapport à ton salaire. Enfin, donc ça offre quand même une très grande liberté d'esprit. 2 ans, c'est pas très long, mais c'est suffisamment long pour mener un projet qui existait déjà en plus. Donc, ouais. On n'est pas parti from scratch en disant, bon, on quitte nos boulots, on va lancer Balzac, ça va être une marque de prêt-à-porter. Non, Balzac, ça existait déjà. Il y avait déjà des clientes fidèles. On avait en tête de proposer la mode autrement. Donc, le fait que tout soit assez fluide et qu'on monte, comme tu dis, les étapes step by step, je pense que ça nous a bien aidé
à être plus serein, quoi.
D'être plus serein et d'avoir cette tranquillité d'esprit, même si jamais monter sa boîte, il y a toujours énormément de choses à gérer. Et t'es jamais tranquille.
Ouais.
Mais c'est très stimulant.
C'est moins d'épines dans le pied, on va dire.
Voilà, exactement.
Et puis, en parlant, je me rends compte aussi peut-être que ça a été malin de commencer par un produit qui ne demande pas énormément de tissu. Parce que du coup, ça demande peut-être moins de financement que de lancer une collection d'abord. Parce que souvent, ce qu'on entend chez les entrepreneurs, c'est qu'ils n'osent même pas commencer parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se financer. Oui. Est-ce que vous-même, vous avez été rechercher des financements extérieurs? Est-ce que ça a été uniquement self-funded?
Alors nous, au début, on a tous les trois mis une petite somme dans Balzac qui était... importante pour nous à l'époque, mais pas grand-chose quand on en parle aujourd'hui.
Ouais.
Donc ça nous a permis, si tu veux, d'acheter une machine pour Clem, ma sœur, pour qu'elle puisse faire les nœuds papes, acheter notamment les tissus. Mais en effet, comme tu dis, les tissus de nœuds papillons, ça ne nécessite pas des métrages immenses. Tu peux acheter 50 cm, 1 mètre, et tu peux faire beaucoup de nœuds papillons. Et c'est vrai que Clem, elle avait en tête vraiment de composer. Le nœud pape était fait sur mesure, donc si tu veux, elle pouvait le placer en fonction d'utiliser le plus de métrages possible. Donc, évidemment, le nœud papillon, ça nous a aidé à nous lancer et le faire de manière intelligente. Par contre, le nœud papillon, c'est aussi un produit qui est très niche. Donc, tu touches l'homme, tu touches pas la femme. Enfin, tu touches une catégorie de femmes à un instant T qui ont envie de porter du nœud papillon, mais pas tous les jours.
Ouais.
Et ça fait vraiment partie de cette vie du produit qui fait qu'il est complètement mode à un moment, complètement désuet à un autre. Et aujourd'hui, dans les mariages, tu regardes, tu as beaucoup de cravates et assez peu de nœud papillon. Donc, on aurait continué sur la veine du nœud papillon. Je ne sais pas si jamais on en serait là où on en est aujourd'hui. Mmh. C'est pour ça qu'aussi en 2014, quand on s'est lancé à plein temps avec Charles et Victor, enfin même si Victor était dans un job à côté, on s'est dit, quel produit va être notre premier produit de prêt-à-porter chez Balzac Paris, de façon à étendre notre offre produit et être plus large. Et donc, vu que c'était le sweatshirt qui était sur le devant de la scène à cette époque, c'est pour ça qu'on a lancé le sweatshirt, notamment littéraire. Mais c'est vrai que ça nous a permis aussi d'étendre notre offre produit. Finalement, le papillon, au fil du temps, ça s'est estompé, donc complètement arrêté. Mais si ça tombe, ça reviendra.
Vous avez réussi en fait à vous adapter à la demande à un moment précis. Et comment vous avez fait pour passer aussi rapidement quand même à une autre offre et à vous transformer en fait en vraie marque de prêt-à-porter? Est-ce que, parce que j'imagine qu'il y a dû y avoir quand même pas mal de challenges, c'est déjà plus les mêmes, c'est plus les mêmes productions.
Exactement.
Est-ce que vous avez dû trouver d'autres usines, enfin un peu, tout ça?
Alors, on a évidemment dû trouver d'autres usines dans le sens où nos papillons, c'était du sur-mesure avec Clem qui faisait ça, donc ma sœur. Quand on s'est lancé à plein temps sur le prêt-à-porter, on avait en tête de faire de Balzac Paris une marque responsable, donc fabriquée en France.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'on a commencé à chercher des usines en France notamment et à Paris pour la facilité d'avoir toutes les usines à proximité puisqu'on vivait à Paris. Et en fait, avec Charles et Victor, on était autodidactes. Donc obligatoirement, tu décides demain de faire une marque de prêt-à-porter quand t'as pas de famille dans le milieu, que t'es autodidacte, c'est un vrai défi.
C'est un vrai défi.
Donc on a toqué à pas mal de portes. On s'est retrouvés dans des situations assez marrantes, on en rigole aujourd'hui. Finalement, on a trouvé des usines à Paris qui étaient capables de nous suivre pour finalement, au bout d'un an, se dire, bon, le Made in France, c'est sympa, mais c'est assez coûteux. On sentait aussi que les usines qui nous suivaient à Paris, enfin, les ateliers, parce qu'on ne peut pas parler d'usines au stade où c'était, elles ne nous suivraient pas longtemps parce que justement, elles étaient petites, qu'elles faisaient face aussi à une problématique de budget, de salaire. Les femmes qui avaient, enfin, notamment la femme qui avait une usine de chaîne et tram, elle nous disait, j'arriverai pas encore longtemps parce que les salaires me coûtent cher, le loyer me coûte cher. Donc, avec Charlie Victor, on s'est dit, bon,
il faut trouver quelqu'un d'autre en alternative.
Et puis, au-delà de ça, nos clientes, est-ce qu'elles sont très attachés aux fabriqués en France, ou est-ce que si on va en Europe, notamment en Portugal, où ils ont un savoir-faire de père en fils depuis des générations, où ça fait partie intégrante du bien-être de l'économie aussi là-bas, notamment dans des villes comme Porto, est-ce que la cliente nous suivra ? Donc le tout, c'est de bien communiquer auprès d'elle, d'être transparente, de lui expliquer pourquoi on part en Europe. Et finalement, on s'est rendu compte que le fabriqué en Europe, notamment en Portugal, c'est très bien accueilli. Donc on est parti en Europe, on a eu la chance de rencontrer un agent qui fait partie encore aujourd'hui de l'équipe Balzac,
ouais,
et qui nous a présenté les usines qui étaient en phase avec l'ADN de Balzac, avec cette idée de chaîne de production raisonnée, qui travaillait dans des conditions qui étaient OK,
ouais,
avec,
ouais,
l'idée qu'on avait de Balzac Paris. Et donc voilà, on est parti au Portugal. Mais
là, ça paraît rapide,
mais c'est un vrai cheminement.
Ouais, j'imagine. Parce que, même à quel moment tu te dis par où on commence ? Parce que je me dis, il n'y a pas de bottin d'usine, quoi.
C'est clair. Non, il n'y a pas de bottin d'usine. Et en fait, t'es très vite seul.
Ouais.
Alors, c'est pour ça qu'entreprendre ensemble, en tout cas au moins à deux, voire à trois ou plus, je ne sais pas, je ne me rends pas compte ce que ça peut donner, c'est quand même cool.
Ouais,
c'est quand même cool parce que quand toi, tu te mets à chercher justement des usines, l'autre, il fait la partie admin, enregistrer la marque, Balzac Paris, enfin... même si c'était déjà enregistré, mais des démarches un petit peu plus importantes, des démarches juridiques. Voilà. Et puis quand toi, tu rencontres un problème, lui en rencontre un ou pas, justement, c'est super cool ce qui lui arrive, toi, c'est pas cool. Donc hop, dynamique, positive, négative, tiens, ça fait la balance. Donc c'est vrai que ça nous a bien aidé d'être plusieurs dans l'aventure, quoi.
Et je me suis demandé aussi à partir de quand vous avez recruté une styliste ou une modéliste, parce que c'est un peu la première personne qui peut nous aider quand, comme tu dis, vous n'étiez pas du tout de ce milieu à la base. Est-ce que déjà, donc sur Inopop, tu m'as dit c'était ta sœur. Mm-hmm. Pour les sweatshirts, c'était aussi ta sœur ?
Alors pour les sweatshirts, c'était moi.
D'accord.
Avec mes bidouilles. Et puis
t'as
finalement.
Pris ton et tu t'es dit on va.
Exactement, on a travaillé avec des modélistes en freelance.
Ouais.
Donc, je leur, donc là, pareil, vas-y, pour rencontrer la bonne qui veut travailler avec toi, ouais, t'es tout petit, n'hésite pas, toujours, ça va cartonner, ça va être top, suivez-nous. Donc là, et en fait, ce qu'il faut, c'est. Quand on fait un projet, souvent, on n'en parle pas, on dit, on va le garder secret. Finalement, on se rend compte que c'est quand même bien d'en discuter parce que finalement, un tel connaît un tel qui pourra te faire rencontrer machin plus bidule qui font que ça match.
Ouais.
Et ça sera la bonne personne. Donc, obligatoirement, c'est quand même bien de discuter de ton projet. Ça nous a permis, nous, de rencontrer des personnes, notamment cet agent en Portugal. C'est une amie qui travaille avec moi, anciennement groupe Marie-Claire, qui m'en a parlé. Les modélistes, je ne sais plus comment je les ai rencontrés, mais c'était des contacts.
Ça, ouais.
Et en fait, très vite, travailler avec des modélistes, c'était extra. Mais voilà, tout ce qui est fabriquer un patron par une modéliste, c'est aussi très coûteux. Donc, on s'est dit, bon, recrutons en interne une styliste qui puisse aussi faire le travail de modéliste.
Ouais.
Et donc, notre premier salarié chez Balzac Paris, ça a été Marie-Camille, qui avait justement ce bagage styliste-modéliste, qui était capable à la fois de développer le patron, la toile, et ensuite faire la tête de série.
Ouais, donc c'était un peu le profil complet dont vous aviez besoin.
Ouais, et puis elle est toujours présente chez Balzac.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça a été notre premier profil. Et ensuite, très vite, ça a été une personne au service client. Parce que comme la marque prenait de l'ampleur, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail, puisque les clientes avaient des questions, et que très vite, on a dit à notre cliente, on vous propose de consommer la mode autrement, posez-nous vos questions, vous avez un problème, on est là pour vous répondre. On ne pouvait pas se permettre de ne pas répondre
semaines,
ou de laisser des semaines d'attente. Donc, le service client, c'était notre deuxième personne qui nous a rejoint, puis ensuite des modélistes pour soulager Marie-Camille qui avait de plus en plus de travail.
Et est-ce que vous avez attendu d'avoir le financement nécessaire pour embaucher ces personnes ou vous avez fait appel à des investisseurs ou des
business
angels ?
Non, au début, c'était vraiment en fonction de ce qu'on gagnait chez Balzac.
Ouais.
Et donc, step by step, toujours cette même veine. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas ? Et cette même chance que Balzac existait avant avec un peu de financement grâce au Noeud Papillon notamment.
Ouais.
Et comme les sweatshirts très vite se sont bien vendus, voilà. Si tu veux, ça s'est fait aussi.
Ça a été autofinancé tout le long, quoi. Et aujourd'hui, c'est un choix que tu regrettes pas. Est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs de plutôt fonctionner sur cette étape-là, on va dire.
Moi, j'aurais tendance à conseiller soi-même
ou plutôt aller chercher.
Rester
indépendant,
ouais. Mieux c'est. En fait, au plus longtemps, on peut rester indépendant, mieux c'est. Alors, on a tendance à regarder les autres qui grossissent plus vite parce que justement, ils ont fait appel à ces fonds d'investissement ou ces business angels ou autres. Mais finalement, son indépendance, je pense que ça n'a pas de prix et ça, tout le monde est d'accord pour le dire quand même.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je pense que ça paraît l'option, on va dire, la plus safe au début de faire appel à des investisseurs, parce que ça nous soulage des problématiques de comment est-ce qu'on va payer ça, comment est-ce qu'on va réussir à trouver un dessus pas trop cher. Enfin, je pense, oui, il y a une entreprise que j'ai rencontrée aussi, où elles ont même levé beaucoup d'argent avant même de commencer, tu vois, à lancer. Et c'est vrai que ça soulage de l'esprit de se dire, bon, on a tout financé.
Bien sûr, mais c'est des business plans, ouais, en fait. C'est des façons de fonctionner, de raisonner. J'imagine que ça fonctionne très bien aussi comme ça. Mais c'est vrai que nous, ça nous a permis, si tu veux, déjà imaginer Balzac comme on voulait l'imaginer. Et puis, au moment où Balzac avait une taille un peu sympa et que ça devenait un projet qui comptait, ben, il avait été façonné par nous à notre image. Et donc ça, je pense que c'est une grande chance d'avoir pu le mener le plus longtemps possible là où on voulait le mener, avec l'idée qu'on en avait.
Ouais.
Et puis, investisseur ou pas, et ben, si tu veux, ils s'adaptent au projet, ils le prennent comme il est.
Ouais,
et puis ensuite, ils t'aident à le faire grandir. Mais t'as déjà ta patte et puis c'est solide. Donc ça, je trouve que c'est quand même cool. Mmh. Après, j'imagine que commencer avec des investisseurs qui te donnent leur update, c'est aussi une chance dans le sens où ils ont un bagage que toi, t'as pas forcément. Donc tout est bien.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi, le côté de pouvoir façonner sa boîte comme on l'imagine...
ça tenait à cœur.
C'est important. Enfin, en tout cas, pour nous, ça l'était. Ouais.
Je me suis demandé aussi, ben, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que tu répartis ton temps ? Pas tant au niveau de l'organisation, même si tu pourrais nous en parler aussi, c'est plutôt sur, en fait, où est-ce que tu vas consacrer ton énergie ? Parce que c'est vrai que quand on est, bah, en plus, non seulement directeur, mais fondateur, on a la vision à transmettre, on a le style qu'on a envie de contrôler, motiver les troupes, mais aussi les rendez-vous pro, les rendez-vous même perso, comme aujourd'hui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu choisis un peu ce que tu fais ? Et même comment tu faisais au départ, et comment ça a changé, en fait, par rapport au début, vous étiez que deux, trois, et maintenant ?
Alors, ça a vachement évolué parce que c'est vrai qu'au début, j'étais sur tous les fronts et j'ai travaillé vraiment main dans la main avec Marie-Camille sur tout cet aspect, justement, artistique, création de collections, etc., sur la communication, sur les réseaux sociaux, mais aussi main dans la main avec Charles et Victorien sur des problématiques de faire grandir Balzac. Donc, t'as vraiment le sentiment d'être sur tous les fronts, mais c'est quelque chose que, je pense, quand tu décides de créer ta boîte, t'aimes bien faire. Et presque, tu as du mal à lâcher quand tu peux embaucher, parce que c'est très stimulant de pouvoir avoir un œil sur tout.
Ouais.
Après, aujourd'hui, ce qui est extra dans le fait d'embaucher, c'est que tu peux avoir des profils qui sont meilleurs que toi et qui peuvent, eux, t'apporter des choses auxquelles tu n'auras pas pensé. Moi, je me suis toujours dit, le jour où on peut embaucher chez Balzac, il faut vraiment qu'on aille chercher des personnes qui viennent nous donner des compétences qu'on n'avait pas, justement, avec Charles. Je pense notamment à cette partie plus produit, chef de produit, chef de groupe, construction de collection. Tout ça, moi, je l'ai appris sur le tas parce que c'était pas mon métier.
Ouais.
Je sais précisément ce que je veux faire de Balzac. Je connais son ADN, je connais ma cliente. Je peux voir une chemise et une autre et dire aux filles, bah, ça oui, ça non. Mais par contre, j'ai besoin, et je le suis maintenant parce que Marie-Emmanuelle nous a rejoint, d'être aidée sur le plan de collection, on va le construire comme tel. Notre offre produit, on va faire plus de blouses que de pantalons parce qu'à cette période de l'année, les pantalons, ça se vend moins bien. Les robes, attention, je dis n'importe quoi, moins de dos nu, moins de fines bretelles parce que la cliente, elle a plusieurs morphologies, donc il faut qu'elle se retrouve dans toutes. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui sont super intéressants dans la construction de collection, sur lesquels j'adore me poser avec Marie-Emmanuelle, mais elle vient vers moi, elle me propose quelque chose et ensuite, moi, je dis oui, non. Donc si tu veux, aujourd'hui, en plus d'être plus dans ce rôle de manager, parce que finalement, aujourd'hui, je suis plus un manager, j'ai quand même vraiment le rôle de directrice artistique parce que je sais quel ton je veux donner à ma marque. Donc, c'est génial d'à la fois motiver les équipes, de voir que les équipes peuvent aussi se faire challenger par d'autres personnes que toi, avec une autre vision des choses. Je trouve que ça, c'est chouette pour elles comme pour moi.
Ouais.
Mais c'est vrai que le métier d'entrepreneur, il évolue considérablement au fil du temps. Et il y a aussi autre chose, c'est que moi, j'ai un profil littéraire. J'ai fait un bac L, ensuite j'ai fait un DEUG en médiation culturelle, puis une école de com. Donc, je n'avais pas toute cette notion des chiffres, devoir me poser sur les chiffres, voir à quel point c'était important. Je disais toujours à Vic et à Charles, non, mais ça, c'est votre partie. Mmh. Et aujourd'hui, Et en fait, Victor, vu que lui, il est plus financier dans l'âme, il me dit toujours, non, mais Christo, tu peux pas dire ça en tant que chef d'entreprise, ça doit t'intéresser, tu dois savoir ton chiffre d'affaires, tu dois savoir tes objectifs. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que ça y est, ça m'intéresse, je mets le nez dedans.
Ouais.
Et on challenge beaucoup les équipes aussi avec ça, parce qu'elles en ont besoin, en fait.
C'est vrai, c'est donc, un indicateur, mais je vois ça... ce que tu veux dire, je suis un peu allergique aussi aux chiffres. Et même,
mais on a vite tendance
en fait,
à dire
c'est
ça.
Moins, je sais pas, c'est moins beau, en fait, c'est moins poétique, on va dire. C'est très terre à terre et enfin, c'est vrai que pour avoir le côté plus création et aimer tout ce qui est créativité, je veux dire, c'est plein de possibilités, c'est à nous de le créer, alors
bien
que
sûr.
Les chiffres, c'est eux qui sont imposés, on va dire.
Voilà,
après,
ils sont
je peux
imposés,
qu'on aime, hein,
mais malgré tout, pour qu'une boîte fonctionne et que ce pôle créatif puisse s'épanouir,
ouais.
Il faut que, en fait, les deux sont tout à fait...
Ouais. Mariés.
voilà, mariés, et puis le bien-être d'une boîte, c'est à la fois bah, le process créatif, l'ADN de la marque, mais aussi bah, le financier, puisqu'une boîte qui se porte bien, c'est une boîte qui peut embaucher, qui peut créer.
Ouais.
Donc, je trouve que... Enfin, voilà, j'ai aussi, moi, progressé et évolué. Et donc, c'est intéressant de se dire que en tant qu'entrepreneur, on peut bah, s'ouvrir le champ des possibles et se dire que ce qui nous intéressait moins, ça nous intéresse et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est super important.
Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu choisis quand même, on va dire, ce que tu fais? Parce que j'ai l'impression que quand on arrive à un certain point dans une boîte et qu'on est donc fondateur, on doit faire certaines choses que on aimerait faire certaines choses.
Mmh.
Parfois, donc comme tu dis, manager, par exemple, moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'impression que j'adorerais. Pourtant, c'est indispensable quand tu es chef d'entreprise et c'est limite, ça devient 80% de ton temps. Mmh. Est-ce que parfois, du coup, ça te manque plutôt la partie création? Est-ce que tu essayes de faire un peu un équilibre? Parce que moi, j'entends aussi des histoires, bah, c'est plutôt notamment en Angleterre, de personnes qui ont fondé une boîte et qui, en fait, perdaient un peu tellement leur centre d'énergie optimale en dirigeant tout, qui se sont rétractés de la position de CEO pour devenir directeur artistique ou pour prendre un autre poste.
Ouais, je comprends.
Parce que c'était en fait plus là où ils s'épanouissaient.
D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que, comme je te disais, mon métier évolue et que toute la direction artistique, le management prend une part super importante. Cependant, la chance que j'ai, c'est que comme le poste de direction artistique, c'est quand même très important chez Balzac Paris parce qu'il fait l'ADN de la marque et que moi je connais par cœur l'ADN de Balzac,
ouais.
Que je travaille vraiment main dans la main aussi avec les filles à la communication pour que cet ADN soit vraiment à 360. Je leur fais confiance, mais elles me font confiance aussi dans le sens où elles savent que le fait que je leur donne mon avis, mon ressenti sur ce qu'elles font, ça va faire en sorte que l'action soit menée à bien, à la fois dans le fait qu'elles, elles aient eu des bonnes idées et que moi, je leur dis si oui ou non, cette bonne idée, elle est en lien avec ce que Balzac est. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc,
ouais, ouais.
Le management, en fait, il est très dans la direction artistique aussi, il est très lié.
Ouais.
Puisque je travaille avec les filles, je les manage sur différents points, mais ces points, finalement, ils sont liés à ma Chrysoline, qu'est-ce que t'en penses? On va faire telle action, tel événement pour Balzac. Ok, on va le faire parce que c'est super, la cliente va s'y retrouver. Donc, si tu veux, je continue à être très dans l'opérationnel,
ouais,
avec elle, dans la réflexion. Et donc, mon rôle de manager, il est vraiment très opérationnel. Donc, c'est ce qui se fait que j'adore cette double position et qu'aujourd'hui, j'ai pas ce ressenti que peuvent avoir certains chefs d'entreprise.
Ouais.
Mais que je comprends complètement qu'un jour, on puisse se dire « mince, en fait, je faisais ça, c'était juste génial. » Et c'est ce pourquoi j'avais entrepris.
Mm.
Et je me retrouve à manager des gens en permanence,
mm,
alors que finalement, je ne suis pas un bon manager. J'imagine qu'il y a des gens qui doivent se dire ça. Et là, se prendre un petit coup, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas ce sentiment-là. Et j'espère ne pas en arriver là et vraiment pouvoir rester dans l'opérationnel avec mes équipes. Ça, c'est vrai qu'il faut que je garde vraiment ce...
Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a deux choses. Déjà, je pense que le fait que tu sois accompagnée par Charles, qui s'occupe peut-être de l'autre partie, je ne sais pas, mais qui pourrait peut-être justement te déplaire et perdre un peu ton énergie. Et aussi, je pense que quand on aime tellement sa boîte,
ouais,
qu'on finit par aimer des tâches qu'on n'aime pas faire. Enfin, moi-même, je le vois.
De toute façon, on fait toujours des tâches ingrates
dans
nos boulots.
Tu vois, c'est ça, j'aime pas faire ça.
Bah, voilà.
Mais comme j'aime l'aboutissement, ça me dérange pas.
Voilà,
quoi.
Exactement. Et puis finalement, je pense que demain, je décide de tout plaquer pour ouvrir, je sais pas, une maison d'hôte en pleine campagne avec que des produits bio. Je dis ça parce que c'est un peu la mode. Et ben, même si j'adorais m'épanouir avec mes filles, vivre dans la nature, aller chercher mes fruits et légumes dans mon jardin, il y aura tout un tas de trucs que je détesterais faire.
Ouais.
Mais quand t'aimes ce que tu fais suffisamment pour que ces tâches-là, qu'on appelle ingrates, soient un peu gommées...
Ouais.
Voilà. Ouais, c'est la clé, donc, même nous, j'adore mes filles plus que tout le monde et dans un monde idéal, j'aimerais bien avoir 4 enfants. Pourtant, il y a plein de trucs parfois que je fais avec mes enfants et que j'aime moins faire.
Ouais.
Mais en fait, c'est la vie.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est une très belle façon de penser, je pense, et d'affronter un peu les petits maux du quotidien, ouais. On va dire, où parfois on se surprend à s'apitoyer alors qu'en fait, c'est au final pour une bonne cause, on
voilà,
va dire.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que si jamais on arrive à... Après, c'est un mindset et il y a un podcast justement qui s'appelle Change ma vie, je sais
ah,
pas
oui,
si tu
bah, j'ai interviewé Clotilde la semaine dernière. Voilà.
Elle est géniale.
Elle est super inspirante.
Et elle est vraiment dans cet état d'esprit.
Ouais, c'est dingue. Elle respire.
Mais elle est incroyable.
La positivité. Même quand elle parle.
Folie, sais-tu. Mais moi, j'ai dit, mince, quand je l'écoute dans la rue, j'ai dit, mince, j'ai pas de carnet, je peux noter ce qu'elle a dit.
Ouais.
Mais c'est. En fait, c'est vraiment une logique.
Ouais, ouais.
Et elle nous mène dans l'idée qu'on peut tous y arriver à se dire que si on en est là, c'est grâce à nous, en fait.
Ouais. Je sais pas si t'as lu Mindset de Carol Dweck. Enfin, je te le recommande aussi, il est génial. C'est vraiment sur ce thème-là aussi. C'est une professeure de psychologie à Columbia qui a théorisé ça, en fait, comme quoi il y a un peu deux états d'esprit, enfin deux modèles types. Le growth mindset, donc l'état d'esprit un peu de croissance, et elle montre à quel point les personnes qui ont cet état d'esprit réussissent vraiment, et les personnes qui ont la fixed mindset, et c'est un peu donc les personnes qui ont entre guillemets des idées reçues,
ouais,
qui ont été conditionnées, ou enfin vraiment, c'est souvent une question d'éducation, mais elle explique comment on peut en sortir, et ben eux sont limite condamnés à échouer ou à répéter des schémas parce que eux c'est pas ils ont pas l'état d'esprit qu'il faut mais donc ce qui est très intéressant c'est qu'elle explique comment en sortir et elle prend des exemples métiers dans plein de secteurs différents parce qu'en gros l'état d'esprit là on parle de professionnel mais il déteint ton état d'esprit sur tous les aspects de ta vie et donc elle prend des exemples donc de sportifs des différents états d'esprit pour les chefs d'entreprise dans des relations et en fait ça enfin c'est marrant comme ça on se rend compte qu'il y a deux routes.
Ouais.
La route où tu peux réussir, même si c'est pas garanti à 100%,
oui.
Et la route où, quand t'as pas le bon état d'esprit, t'es condamné à l'échec.
Ouais, c'est fou.
Donc voilà, mais j'ai divagué. Et pour en revenir à la mode, je voulais quand même me te demander aussi comment tu fais un peu pour être inspirée à la fois par ce qui se fait et continuer à te démarquer, notamment parce que le style, je trouve, parisien et le savoir-faire un peu français revient vachement sur le devant de la scène et il y a pas mal de marques qui se créent autour de cet univers.
Bien sûr.
Est-ce que toi, c'est une problématique que tu te poses ou est-ce que... Tu connais tellement bien Balzac que c'est unique de par sa nature, quoi. Ouais, voilà.
Alors c'est une super question. En plus de ça, on a travaillé en workshop dessus jeudi avec les équipes. En fait, on a fait justement un workshop sur donc c'est Marie-Emmanuelle qui avait organisé ça, la chef de groupe. Elle nous avait demandé de réfléchir en petit groupe. C'est quoi les essentiels Balzac Paris? C'est quoi le cœur de collection Balzac Paris? Et c'est quoi la mode Balzac Paris? Et donc, moi, j'étais dans un atelier avec les filles sur justement c'est quoi la mode Balzac Paris. Et donc, on a réfléchi avec les filles, on s'est dit, bah, bien évidemment, on fait des pièces qui sont mode dans l'air du temps. Admettons, le velours côtelé, c'est à la mode. Tu vas en voir partout des pantalons un peu larges, justement velours côtelé, avec des grosses côtes, des fines côtes, dans les rousses poudres et les écrues, etc. Tu vas en voir beaucoup. Est-ce que justement chez Balzac, on doit à tout prix le proposer? Parce qu'il faut qu'on copie-colle aux tendances et que notre cliente vient chercher ça. Ou est-ce que justement, il y a une mode selon Balzac? Et quand on en discutait, on disait, bah on a le sentiment, plus on discutait, plus on se le disait, on a le sentiment qu'il y a une mode selon Balzac. Parce que des chaussures comme les Rosie, qui sont les sandales de notre enfance, je ne sais pas si tu les as en tête, ça s'appelle les Salomé quand on est petit, tu sais, c'est des sandales avec les petits trous.
Ficelles? Non, alors je ne vois pas.
Tous les petits bébés ont ça.
D'accord.
Les petites filles, les garçons les ont en marine, les petites filles les ont en blanc.
Ouais.
Elles se déclinent beaucoup plus chez la petite fille. Et en fait, on les a imaginées chez Balzac en talons à gomme sur l'été et en talons en bois sur l'hiver. Et en fait, Mathilde, elle était dans le groupe avec moi sur la réflexion « C'est quoi la mode ?» chez Balzac. Elle me disait, quand t'as demandé à Maria Rosa, t'as travaillé avec Maria Rosa sur ce modèle, je me suis dit « My God, Chrysoline, elle pète un câble. » Et elle me dit « Aujourd'hui, plus je vois cette chaussure, plus je me dis « Mais il me la faut absolument dans mon vestiaire. »
Ah mais ça, c'est dingue, j'en parlais.
Et du coup, je me dis « C'est marrant. »
Mais oui, c'est je pense le fait de le voir et le voir bien porté. Je sais plus avec qui j'en parlais par rapport à la banane. Oui. Dire, moi, la banane, c'était avec mes sœurs, quand on avait 12 ans, on se moquait des personnes qui avaient des bananes, on était là, mais c'est le truc, mais tu sais, de loser et tout. Et je me suis surpris dernièrement, à force de le voir en fait bien assorti, par des blogueuses mode, voilà, par des nanas que je suis. Je trouve ça trop beau.
Si t'allais pas aussi dans une banane.
Vraiment. Mais alors, parce que bon, après, c'est vrai que c'est plus la banane forme banane. Oui. C'est plus le petit sac porté en banane autour du ventre, des hanches. Même ça, mais c'est, il faut le dire, j'aurais jamais pensé porter ça il y a 2 ans. Et aujourd'hui, je trouve ça canon.
Ouais, c'est vrai.
C'est fou, hein.
C'est vrai. Du coup, on s'est dit, tiens, en fait, peut-être que Balzac, et moi, je l'avais déjà en tête, c'est pour ça qu'on travaille pas forcément avec des cahiers de tendance. Qu'on essaye d'être dans l'air du temps, si tu veux, mais jamais être trop pointu ni trop mode, parce que c'est pas non plus notre cliente. Mmh. Mais on s'est dit, il faut qu'on continue dans cette même dynamique, de proposer évidemment des produits que la fille a envie de trouver, et elle viendra assortir les pièces Balzac à ses pièces plus pointues, plus tendances. Malgré tout, il faut que vraiment on continue à proposer la mode selon Balzac, donc plus une mode dans l'air du temps, et que nous... ce qui est notre force aussi, je pense, d'avoir des pièces auxquelles que tu verras pas forcément chez le concurrent, que tu verras pas forcément dans les linéaires Zara également. Parce que Zara, ils sont excellents sur tout ce qui est pointu, en fait, tout ce qui est mode, puisque c'est les défilés, hop, tac, tac, les filles travaillent en fonction. Donc, obligatoirement, si tu veux, ça va très vite et tout ce que tu veux trouver à la pointe. Alors, si t'aimes la fast fashion, chez Zara, c'est l'idéal.
C'est très fast, hein, je trouve.
Ouais, c'est
très fast. Je trouve que c'est en fait overwhelming. Tu vois jamais la même chose d'une semaine à l'autre. Tu ne retrouves pas ce que t'avais repéré.
Ouais, tu retrouves pas.
Et moi, je sais pas si c'est parce que maintenant le shopping en ligne s'est vachement développé et que du coup je deviens allergique au shopping physique, mais j'ai mal à la tête au bout d'une heure maintenant.
Ouais, c'est vrai que
Surtout dans des énormes boutiques en fait. Où t'es là, tu sais pas si tu vas trouver ce que tu veux, donc tu dois fouiller. Et puis en fait, j'ai l'impression que sur internet, tu vas tellement plus vite.
T'es un peu un zombie en fait. Moi, je sais que quand j'arrive dans des grandes boutiques comme ça, je suis un peu un zombie, je suis là, ok.
Et c'est ça.
Alors que quand j'étais plus jeune, je déposais, j'étais là, clac, 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 petite pièce que je dénichais. Et puis il y a aussi, nous, chez Balzac, mais on a vraiment envie de faire de la mode Balzac Paris une mode responsable. Donc ça, c'est vraiment une dynamique qu'on est en train de prendre à 100%. On espère que pouvoir la prendre en tout cas un jour à 100%, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. On va être responsable, loin de là. Donc si tu veux, ça fait aussi que certaines pièces, admettons, que les filles ont envie d'avoir à l'instant T parce qu'elles sont à la mode, eh ben nous, chez Balzac, on pourra pas les travailler parce que justement, elles sont des matériaux qui sont pas responsables. Je te parle par exemple de tout ce qui est pièces simili-cuir. Finalement, c'est des pièces qui sont faites à partir de pétrole. Mmh. Donc, tu peux pas les faire si toi, tu es dans une dynamique responsable. Donc, nous, dans notre cheminement, et les stylistes, surtout dans leur cheminement de styliste, il faut aussi que maintenant, elles aient cette dynamique en disant Balzac, c'est une marque responsable. Moi, en tant que styliste, ça change aussi ma manière de travailler. Tel produit, j'adore, je trouve ça génial. Mais je vais pas pouvoir le faire chez Balzac parce que, justement, pour cette raison, ce tissu n'est pas responsable.
Ouais.
Enfin, voilà. Donc, ça modifie aussi notre façon de travailler chez Balzac. Mmh. Et c'est super intéressant parce que ça nous met dans une dynamique. Et ça entraîne les équipes avec nous en disant, voilà, Balzac, on veut être responsable. Allez, on y va tous ensemble et vous êtes obligés de vous y contraindre dans votre travail de tous les jours. Donc, si tu veux, il y a toute cette logique aussi responsable qui fait que ce sera toujours la mode à la Balzac, entre guillemets, parce qu'on aura des contraintes aussi dans notre manière de produire.
Et vous avez un peu une vision supérieure à la tendance pure et
exactement.
Simple. Et je sais qu'au départ, donc, vous lanciez des collections, je crois, donc à effectifs limités ou que vous faisiez des réassorts. Mmh. Est-ce que vous fonctionnez toujours comme ça aujourd'hui? Et quand est-ce... Est-ce que vous pensez à faire le switch ou quand est-ce que vous l'avez fait
Alors, on a toujours des collections tous les mois avec des vêtements qui sont en édition limitée. On parle d'édition limitée parce que ce sont des chaînes de production raisonnées.
Ouais.
Qu'on n'a pas des chaînes de production de 10 000 exemplaires. Ça, ce n'est pas l'idée. Malgré tout, quand un produit fonctionne bien, comme on est une marque très communautaire et qu'on place vraiment la cliente au cœur de nos actions et qu'elle est actrice de la marque, si jamais on a le sentiment qu'elle a envie de revoir venir un produit, on va évidemment le reproduire. Ça peut ressortir dans un tissu ou pas, dans un tissu de nos stocks dormants dans les usines, parce qu'on est vraiment dans une dynamique de zéro gâchis et on a à cœur d'utiliser les tissus restants. Donc voilà, et malgré tout, tous les mois, on a 10 collections par an, dont 2 collections responsables qui sont des collections où c'est les tissus restants dans nos usines. On rebondit sur les succès de la saison en cours et on va produire ces succès dans les tissus restants. Et on propose ces produits à prix plus doux parce qu'on part du principe que la cliente a déjà vu et la forme, que le tissu, c'est un tissu de stock et que pour la cliente, c'est toujours sympa d'avoir un petit discount sur ces produits. Donc.
Voilà. Ok, et je me demandais comment est-ce que ça se passe en fait pour vous un peu le lancement d'une collection, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Est-ce que vous commencez par imaginer, est-ce que toi tu imagines du coup voilà quelle histoire je vais raconter, est-ce que vous fonctionnez plutôt par saison, par tendance, est-ce que du coup après c'est croquis, proposition aux stylistes et ensuite lancement, vous faites appel à votre communauté, enfin c'était quoi un peu le processus pour vous si demain là on lançait la collection du mois prochain?
Alors si demain on lance la collection du mois prochain, moi je donne une dynamique aux filles globale, donc par exemple la dynamique pour l'automne-hiver c'était, j'avais dit aux filles, bah, c'est les salons littéraires. Les salons littéraires, qu'est-ce que c'était à l'époque et qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si on devait faire des salons littéraires à Balzac Paris? Donc, si tu veux, elles se sont réunies entre elles, entre stylistes. Elles ont été dans des lieux inspirants qui pouvaient leur évoquer justement ces salons littéraires. En fonction de ça, elles m'ont fait des propositions, des moodboards. Les salons littéraires, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui? Si c'était des imprimés, qu'est-ce que ça serait? Si c'était des couleurs, qu'est-ce que ça serait? Elles me les proposent, on en discute. Elles me disent, bah voilà, nous, Chrysaline, quand tu nous as dit les salons littéraires, on a imaginé ça. Toi, qu'est-ce que tu avais en tête? Donc moi, je leur dis, en fonction de ça, on ajuste. Et une fois qu'on est OK pour les thèmes, donc là, par exemple, les salons littéraires, on a déterminé deux grandes thématiques, le cercle et les clans. On a estimé que les filles qui faisaient partie des salons littéraires, elles allaient intégrer des cercles, les cercles Balzac Paris. C'était des filles qui étaient vraiment citadines, actives, mais qui se nourrissaient justement de ces cercles pour aller à la recherche de nouvelles idées ou se faire, enfin, avoir des réflexions à la fois sur l'art, la littérature ou bien d'autres sujets, l'environnement peut-être. Et ces filles qui étaient très actives, elles avaient envie aussi de se retrouver en famille. Donc ça, c'est la notion de clan, dans leur maison de famille, avec leur famille, et que tout l'héritage qu'elles auraient eu, donc le cercle, en fait, ça a lieu en septembre-octobre et le clan en novembre-décembre, tout cet héritage qu'elles auraient eu en septembre-octobre, elles l'emmènent avec elles pendant les fêtes de famille, elles le partagent en famille, et en même temps, elles retrouvent l'héritage de leur grand-mère, les vieilles pièces, parce que nous, chez Balzac, on adore tout ce qui est vintage, ouais, notamment, et on le retravaille beaucoup. Donc, elles vont retrouver les blouses de leur grand-mère, les manteaux de leur papa qu'elles adorent mettre, justement, quand, ou les gros pulls hommes qu'elles vont mettre. Donc, voilà, on a travaillé tout autour de ça. Elles me font des propositions. Et puis, ensuite, elles dessinent. Elles me font des propositions tissus et on travaille vraiment main dans la main jusqu'à temps qu'elles me fassent des propositions de silhouettes. En me disant, bah, regarde, la silhouette, ça serait ça. Justement, pour le clan, on va vachement mettre des couches. On va mettre un gros pull avec un gros manteau, peut-être même au-dessus de nos pulls, on va mettre un sweat à capuche pour avoir le sentiment justement de nid douillet. Et elles vont travailler en fonction jusqu'à temps que la chef de groupe, la chef de produit leur présente un plan de co. Elle leur dit, bah, les filles, dans votre collègue, il faut qu'il y ait autant de blouses, autant de pantalons. Puis elles ajustent. Et ensuite, la chef de produit prend le relais et jusqu'à temps qu'il y ait la sortie de prod.
D'accord. Ok, ouais, c'est vachement beau, je trouve, de voir à quel point il y a un univers, une réflexion derrière, et c'est aussi quelque chose que j'ai découvert récemment, parce que je pense que nous, on se doute pas du tout, quand on voit les produits, quel a été l'imaginaire derrière, oui. Et je trouve ça vachement beau qu'il y ait une histoire et qu'il y ait du sens, au final.
Ouais. Et c'est vrai qu'on essaye de le retranscrire après sur les réseaux sociaux,
ouais.
Et c'est la chance qu'on a avec Balzac, bien, ouais. Parce qu'on a une communauté qui nous suit, qui nous écoute et qui nous lit, parce que tu peux aussi voir des posts, liker, et puis passer au suivant. Alors j'imagine qu'il y en a beaucoup qui font ça, peut-être sur Balzac, mais j'ai le sentiment qu'elles nous lisent, et que du coup, elles s'imprègnent de l'histoire et qu'on arrive à la retranscrire.
Ouais,
et c'est aussi ce qu'on fait dans nos événements que Margot organise 3 fois par mois. Elle a à cœur que les salons littéraires, bah justement, elle va le retranscrire lors des événements. Et donc, la cliente, elle va être imprégnée de ce qui s'est passé en amont. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant.
Mmh. J'ai 2 petites dernières questions pour toi, Chrysoline. La première, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer?
Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer? J'aurais aimé savoir que finalement, quand on commence à grossir, on peut parfois avoir la vie dure par la concurrence. La concurrence est rude, en fait.
Mmh.
Et c'est vrai que les regards sont pas toujours tendres. Et donc, je pense qu'il faut quand même être assez, prête à ça pour justement savoir y faire face, en fait. Savoir y faire face et avoir suffisamment de recul pour dire que finalement, Balzac Paris, c'est une aventure extra et que c'est évidemment mon bébé, le bébé de Charles et de Victorien, et que on se donnera toujours à 200% dans cette aventure, mais avoir du recul pour se dire qu'en fait, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que finalement, ma priorité, ça reste quand même ma famille.
Ouais.
Et que si jamais il y en a qui nous mènent la vie dure et que c'est pas toujours facile d'avoir une entreprise, bah, il faut toujours un peu se recentrer sur ses priorités.
Ça doit être difficile, je pense, quand on est entrepreneur, de pas associer sa vie complètement à sa boîte.
Ouais.
Et se dire, si demain tout s'arrêtait, j'ai quand même ma vraie vie qui continue.
Carrément,
quoi.
C'est important et je pense que c'est important de se dire, en fait, c'est quoi ma priorité ? Est-ce que demain, si Balzac s'arrête ou si je quitte l'aventure, je suis capable de faire un autre métier ou d'entreprendre à nouveau ? Je pense qu'il faut se poser la question en amont pour pas que ça donne le sentiment soit d'un échec si l'entreprise n'est pas menée à bien ou alors d'avoir le sentiment qu'on fera jamais aussi bien. Ou si jamais on quitte sa boîte et qu'on redevient salarié, je sais pas, j'imagine une nana ou un homme d'ailleurs qui devient, qui rentre dans le milieu médical ou qui
pédiatre.
Devient pédiatre et qui décide de faire 12 ans d'études. Et non, maîtresse d'école, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Et bien de se dire qu'en fait, c'est aussi bien d'entreprendre que d'être salarié.
Ouais.
Ce genre de choses, en fait, peut-être avant d'entreprendre, de se dire si jamais ça marche pas, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je suis prête à faire. Est-ce que je vais pas trop prendre les choses à cœur ? En tout cas, est-ce que je vais toujours me recentrer sur l'essentiel ? Ça, c'est bien peut-être de se poser la question avant, je pense.
D'accord.
Parce que c'est pas toujours.
Et même pendant peut-être.
Pendant, et en fait, c'est vrai que nous, on dit toujours, on est une marque communautaire, c'est génial parce que la cliente est au cœur de l'action, elle est actrice de la marque, mais en fait, elle est aussi cœur de l'action de la critique. Donc, si elle a envie de nous dézinguer sur les réseaux sociaux ou nous envoyer des messages hyper négatifs qui peuvent faire mal au cœur, elle le fait et c'est pas toujours bienveillant.
Ouais.
Donc ça, je pense qu'il faut aussi se dire, je vais recevoir ça, mais finalement, même si jamais il va être écrit... Chrysoline ou quelqu'un de l'équipe, je le prends pas personnellement, je prends du recul par rapport à cette histoire.
Ouais.
Et
est-ce que
ça peut arriver,
je fais
en fait
ce que je fais,
ça peut carrément arriver et ça arrive, hein. Je vais pas dire le contraire.
Ma dernière question, ce serait cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de ta vie?
Justement, prendre le pouvoir de ma vie, c'est ce que Clotilde, je pense, aide à faire avec son histoire de Change ma vie. C'est de se rendre compte qu'en fait, elle le dit mieux que moi, mais la couleur de nos yeux, la forme de notre nez, à part si on décide de faire de la chirurgie esthétique, n'est pas quelque chose que l'on peut changer, alors que ce qu'on ressent, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et donc, si jamais on a le sentiment par exemple, on va dire, moi, toute ma vie, maman, elle m'a dit que j'étais quelqu'un d'hyper stressé. Je me souviens, quand j'avais justement des rendez-vous de pédiatre, de médecin, j'entendais mam qui disait à côté, non, mais Chryso, elle est hyper stressée. Et en fait, je peux me dire, on m'a dit toute ma vie que j'étais hyper stressée, mais en fait, je suis pas hyper stressée. Je vais changer ça, en tout cas essayer, et je vais plus être quelqu'un d'hyper stressé. C'est pas facile, mais je pense que c'est ça, prendre le pouvoir de sa vie, c'est de se rendre compte qu'une idée reçue qu'on nous a répétée toute notre vie, ou alors je suis nulle en anglais, par exemple, moi je suis nulle en anglais, je parle pas bien anglais, maintenant en fait, je suis pas nulle en anglais parce que ça, je peux le changer, je peux devenir forte en anglais. Voilà, plein de trucs qui font qu'aujourd'hui, c'est au cœur de tous les sujets. Et c'est un sujet qui est vraiment sur le devant de la scène, la psychologie positive. Mais ça, c'est vrai que c'est ça, en fait, prendre le pouvoir de sa vie. C'est qu'on est capable de changer ce qu'on a dans la tête.
On a au pouvoir, en fait.
Ouais, on a les manettes. On a les manettes et c'est un vrai travail, mais c'est un travail qui est chouette et qui est que positif. Donc, je pense... Je conseille à tout le monde de le faire et d'écouter le podcast justement de Clotilde parce que je trouve qu'elle le fait bien en fait. C'est hyper bienveillant et il n'y a rien de pédant dans son histoire. C'est vraiment, venez, je vous entraîne avec moi dans l'aventure et vous avez envie de le faire, vous le faites et vous n'avez pas envie, vous écoutez plus mon podcast. Mais finalement...
L'important, c'est d'essayer quoi.
Ouais.
Voilà. Merci beaucoup à toi, Chrysoline, d'être venue sur InPower.
Avec plaisir.
Où est-ce qu'on redirige les personnes qui veulent en savoir plus sur l'univers de Balzac et qui sont peut-être intriguées par la nouvelle collection autour des salons littéraires?
Ouais, écoute, elles peuvent se rendre soit sur les réseaux sociaux,
donc
Balzac Paris, vous en Balzac Paris, et également sur internet www.balzac-paris.fr.
Ouais, de toute façon, je mettrai les liens dans les notes du podcast pour qu'on puisse y rendre directement.
C'est cool.
Super, à très
bientôt,
Chrysoline.
À bientôt.
Bye bye. J'espère que cet épisode avec Chrysoline vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aller découvrir l'envers du décor sur YouTube. J'ai laissé le lien de la vidéo dans les notes du podcast.
et n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux pour que je puisse le voir et le reposter. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.